franceinter.com.
Bonjour, chers écouteurs.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun.
Aujourd'hui, l'alpiniste Gaston Rébuffat, la montagne pour ami, avec un spécialiste du domaine de la montagne qui est Yves Balut. Bonjour.
Bonjour.
Ingénieur, spécialiste aussi de l'infiniment petit.
Oui, à une époque de ma vie, oui.
Le CEA, oui. Mais qui a consacré la partie la plus ardente de son existence à la montagne. Alors vous êtes glaneur, collecteur, auteur, romancier.
Oui, aussi.
Ah oui, vous publiez votre deuxième livre, sur Gaston Rébuffat. Vous avez publié des romans aussi.
Oui, j'ai publié plusieurs romans, oui.
Dont l'un inspiré par l'expédition de l'Annapurna, qui en 5 ans arriva à 8000 mètres.
Ici l'aéroport d'Orly, il est exactement 2h05, l'avion, le Constellation qui vient d'Indochine vient d'atterrir sur cet aéroport. Eh bien nous sommes ici exactement un mois et quelques jours après le départ de l'expédition française pour l'Himalaya, mais avec une certaine appréhension, une certaine angoisse qui nous étreint en attendant les membres de cette expédition, ou du moins les deux premiers qui doivent rentrer, les moteurs de l'avion viennent de s'arrêter de tourner en ce moment, et nous attendons l'expédition française à l'Himalaya.
Alors on ne va pas résumer la vie très riche de Rébuffat à sa participation à cette fameuse expédition. L'incomparable acrobate de la montagne qu'il a été, était aussi un guide très sûr, et il a tellement multiplié les sorties qu'il a pu tenir un carnet de route, un carnet de course, diriez-vous, serré de 35 à presque sa mort.
Oui, jusqu'à la fin, il a tenu à grimper. Alors évidemment, il grimpait des choses moins difficiles quand il était fatigué par la maladie, mais il voulait continuer à grimper. Sauf que quand il s'est plus senti capable d'emmener des gens en montagne comme guide, il a été au bureau des guides de Chamonix. Il a dit maintenant, je vous demande de me rayer de la liste. Donc il a continué à grimper, mais plus comme guide.
Conférencier, auteur de films, son message est d'autant plus facile à entendre aujourd'hui qu'il ne fait pas partie de la cohorte des conquérants de l'impossible, mais qu'il considérait plutôt la montagne comme une amie. C'est le sous-titre du livre que vous publiez chez Houellebecq. Il ne faut pas vaincre la montagne, il faut, Yves Balut, la désirer.
Absolument, c'était une des formules qu'il employait souvent, Gaston Rébuffat, à propos du Mont Blanc, à propos du Cervin, disait « l'ai-je assez désiré ». Et je crois que c'est la marque de Rébuffat, et c'est ce qui fait qu'il était un peu un précurseur par rapport à une forme d'alpinisme qui était en voie de terminaison, parce que c'était à la fin. L'alpinisme, je dirais, de lutte contre la montagne, une montagne ennemie qu'on arrivait à vaincre et on en revenait un héros. Et lui, il a pris le contre-pied de tout ça, il a dit « la montagne, c'est plutôt une amie, et si je vais en montagne, c'est parce que j'ai envie d'y aller, parce que j'y suis bien ».
Par la jeunesse, où on présentait, on est dans les années 30, la montagne comme un obstacle qu'il fallait dépasser. Les valeurs de virilité étaient très fortes. Il avait cette particularité dans sa jeunesse très consciencieuse d'être bipolaire, puisqu'il y avait les Alpes l'été et les Calanques le reste de l'année.
Je suis né ici et c'est ici que j'ai découvert tellement de choses qui me semblent importantes, qui sont une certaine qualité de silence et une certaine qualité de solitude. C'est ça qui a été pour moi le départ. Mais c'est pas seulement un départ, c'est que je suis revenu des tas de fois. Pour m'entraîner à grimper, c'est une chose, c'est une raison un peu pratique, mais d'abord pour respirer, si je puis dire ici. Et mon vœu le plus cher, le plus solide, c'est que les Calanques, pour être sûr que jamais on l'abîmerait, puissent devenir parc national.
Alors, le Rébuffat qui parle des Calanques, c'est un Rébuffat devenu adulte. Et devenu adulte et devenu reconnu et célèbre. Parce que pendant longtemps, Rébuffat, il n'était pas fier des Calanques, il n'était pas fier de Marseille. Il a même été jusqu'à perdre son accent, parce que son désir le plus cher était de devenir guide à Chamonix, guide à la compagnie des guides de Chamonix, et on imagine que l'accent marseillais, c'était quand même un gros handicap. Et il a perdu son accent au point que François, c'est moi qui ai révélé à François Drébuffa, son épouse, que son mari avait eu un accent. Parce que quand elle l'a connu à Chamonix, il avait déjà perdu son accent, alors que tous ses amis d'avant se moquaient un peu de lui parce qu'il avait l'accent marseillais. Et puis, dans sa jeunesse, c'était quand même quelqu'un qui n'était pas aussi, aussi apaisé qu'il l'a été plus tard. C'est-à-dire qu'il était dans un schéma de compétition avec les autres. Donc il a, au début, il était effectivement à la fois dans les Calanques et dans les Alpes avec l'envie de faire des gros trucs et de devenir célèbre par des grandes réalisations.
Devenir guide à Chamonix, c'est pas une mince affaire quand on est de Marseille.
Et justement, c'était très compliqué. Alors, il y avait un précédent, il y a eu Jean Franco, Édouard Frindeau, qui était, qui n'est pas né à Marseille, mais qui était marseillais, qui est devenu guide à la compagnie des guides de Chamonix. C'était un peu un modèle pour Rébuffa. Et Rébuffa avait cette ambition absolue de devenir guide. Du reste, il a galéré parce qu'il a accepté d'être même valet de ferme de Lionel Terray, de bosser dans une ferme pendant plusieurs années, parce qu'il n'y avait rien d'autre à faire, en attendant d'être coopté à la compagnie des guides de Chamonix.
Vivre en montagne, dites-vous, Yves Balus, ça suppose de vivre de la montagne. Pour vivre de la montagne, il faut être moniteur de ski l'hiver et guide à la belle saison.
Oui, mais ça, c'est pas quelque chose qui intéressait beaucoup Rébuffa. D'abord, il a jamais été très bon skieur. J'ose le dire, j'espère qu'il va pas se remettre dans sa tombe. Et il n'était pas très bon skieur, surtout ça l'intéressait pas beaucoup de dire arrondissez les angles, d'apprendre à des gens qui ne rencontraient que pendant quelques minutes ou quelques heures à skier. Ce qui l'intéressait, c'est autre chose. Donc il a trouvé autre chose à faire, parce que la saison d'été, c'est 2 mois. Il fallait trouver autre chose à faire pour vivre de la montagne. Il a trouvé autre chose à faire, c'était l'écriture.
Oui, mais ça, c'est venu aussi plus tard encore qu'il s'est essayé à l'écriture dès le lendemain de la guerre. Et c'était un bon guide, je ne sais pas si c'était quelqu'un qui respectait à la lettre le cérémonial de la compagnie des guide de Chamonix, tel qu'il est restitué avec une belle régularité par les médias chaque 15 août.
La compagnie des guides de Chamonix est la première au monde. C'est elle qui a inspiré toutes les autres. Tout a commencé en 1821 avec la mort de 3 guides dans le massif du Mont Blanc. Il s'agissait alors de créer une caisse de secours pour aider les familles des guides disparus. C'est en leur souvenir, en souvenir de tous ceux que la montagne a enlevés, que la fête des guides est organisée chaque année le 15 août. Au fil du temps, l'aura des guides est toujours intacte. On vient de loin pour participer aux festivités, aux cérémonies, avec notamment la traditionnelle bénédiction des cordes et des piolets.
Dans le contexte de cette fête marquée par l'altitude, nous pourrions comparer Marie à une guide de haute montagne. Guidée par elle depuis la vallée, l'ascension du sommet, c'est-à-dire vers le Christ, peut s'avérer plus facile.
TV8 Mont-Blanc, ce 15 août 2011. Les Chamoniards sont entre terre et ciel, on a entendu le prêtre le dire fort bien il y a un instant. Ils trouvaient, Rébuffa, qu'ils étaient un peu entre eux. Je veux dire que les guides de Chamonix, ils les considéraient un peu comme des sédentaires.
Alors, Rébuffa a été au début extrêmement fier d'être guide de la compagnie. Il avait du reste le macaron, il le portait partout, même y compris dans les restaurants parisiens, tellement il était fier d'appartenir à cette vénérable compagnie. Et puis, progressivement, alors il en est devenu du reste un peu l'emblème, c'était une belle figure de guide. Il leur a rendu un énorme service parce qu'il a véritablement donné une très belle image du guide de haute montagne. Mais progressivement, il a trouvé que c'était un peu, effectivement, comme vous dites, ils étaient un peu entre eux, un peu lourd, surtout quand il a été à Paris, il habitait Paris pendant plusieurs dizaines d'années, une bonne dizaine d'années. Et donc, il a vu ça un peu d'une autre façon. Et notamment, ce défi du 15 août, il en a eu marre. Il a refusé d'y participer. Il disait que les guides avaient l'air de playboy attardé, déguisé avec cette espèce de blazer qu'ils avaient du mal à boutonner parce que pour certains, ils avaient pris l'embonpoint.
C'est-à-dire qu'entre un exploit qu'on pourrait accomplir parce qu'il fait beau le 14 août et la messe du 15, ils choisissaient plutôt l'exploit. Mais d'ailleurs, comment fait-on des exploits? Les guides de Chamonix, ils leur reprochaient d'être trop souvent seulement des accompagnateurs et de ne pas créer de nouvelles voies. Mais les nouvelles voies, on les connaissait, les problèmes étaient résolus dans les Alpes.
Oui et non. Alors, la difficulté, effectivement, je prends la défense des guides, les guides ne sont pas là pour faire des exploits, ils sont là pour emmener des gens en montagne. Bon, donc quand il fait beau, une belle journée, c'est une belle journée d'abord pour emmener des gens. Et des gens, ils n'ont pas forcément toujours envie de faire des exploits. Et là, la marque de Rébuffa, c'est là son intelligence. Parce qu'il voulait aussi gagner de l'argent, il épousait une fille d'architecte, Et quand il est arrivé dans la belle famille, la maman l'a pris à part en disant, écoutez, vous voyez, François n'a jamais manqué de rien, on compte sur vous. Donc il a une pression formidable, il a fallu qu'il gagne bien sa vie. Et comme il a fait pour gagner bien sa vie, très intelligemment, il a choisi des clients fortunés, des clients qui avaient envie de faire des grandes choses. Et avec des clients, c'est sans doute le seul qui a réussi ça, avec des clients, il a réussi à faire les courses les plus difficiles qui soient, les grandes faces nord. Et du reste, il a écrit là-dessus des choses admirables. Donc il a réussi à aller en montagne, à faire des courses très difficiles avec des clients en se faisant payer très cher, naturellement.
Donc à sa femme qu'il n'emmenait pas, il a ramené un bouquet de face nord.
Exactement, on peut dire ça comme ça, un bouquet de face nord, plus tous les produits dérivés, c'est-à-dire les films, les livres, les conférences. Il a fait des conférences jusque... Il était en chimiothérapie, il avait une perruque, et il faisait des conférences à la salle Pleyel. Il a continué jusqu'au bout.
Mais si on parle de sa jeunesse, 49, pour prendre une première française, la face nord du Cervin. Il fait ça avec qui ? Raymond Simon ?
Oui, Raymond Simon, c'était un chamoniard. C'était donc un client qu'il a trouvé, qui était un hôtelier chamoniard, et qui était un bon alpiniste, mais bon, qui n'était qu'un second, mais qui était partant, parce qu'il faut trouver quelqu'un pour y aller à la face nord du Cervin, c'était quelque chose quand même. C'était la première française. Et donc il l'a réussi avec un chamoniard.
Qui avait fait avant ? Les Italiens ?
Non, c'était deux Allemands. Les frères Schmitt, qui avaient fait en 35 la première ascension de la face nord du Cervin, qui était à l'époque quelque chose d'extraordinaire, parce que dans les revues d'alpinisme, on pouvait lire aucun exploit n'égalera celui-là. Il y a eu les grandes Jorasses, il y a eu beaucoup de choses, les Drudes, etc.
Bon, le surnommait la grande vorace, lui.
La grande vorace. Alors effectivement, parce que il avait un énorme appétit de première et aussi d'être reconnu.
Mais tout ça avec quand même une attention à la sécurité et notamment à celle de ses clients.
Oui.
Prudence et montagne. La radiodiffusion télévision française présente un reportage réalisé par Pierre Ichac, avec la collaboration des alpinistes Lucien Devie, Maurice Herzog, Jean Franco, Pierre Alain, Gaston Rébuffa, Lionel Terret, Edmond Denis, Brigitte Rebaille et Jean-Paul Gardinier. Mise en onde, Abderrisker.
Avec Gaston Rébuffa, c'est plutôt l'acrobate de la montagne que nous avons voulu interroger.
Je crois surtout une chose, ce qui est important, c'est de garder bien tout le temps, quoi qu'il arrive, de bien garder la tête sur les épaules. En football, il y a des règles du jeu. En général, si ça va mal, on se déboîte un ménisque. À ski, on se casse une jambe. En montagne, on se tue. C'est du tarif réduit, du courage à très bon marché, soi-disant d'avoir le goût du risque, c'est une bêtise. Ce qui est important, c'est de faire des choses bien conscientes.
Je crois que c'était. Rébuffa a eu l'occasion souvent de développer ce message, notamment parce qu'il était chroniqueur au journal Le Monde. Pratiquement tous les ans, il y avait une rubrique un petit peu sur les accidents de montagne et sur les recommandations qu'on pouvait faire. Des recommandations de bon sens. Alors, quand on dit Rébuffa acrobate, en réalité, Rébuffa a été acrobate au début parce que dans les calanques, il a appris à grimper des choses difficiles. Il a notamment développé l'escalade artificielle, dont il était très fier au début. Après ça, il en était un peu moins fier. Mais ça faisait bien à l'époque, l'escalade artificielle, c'était ce qu'il y avait de...
Qu'est-ce que c'est ?
Escalader avec des pitons, des mousquetons et des étriers sur lesquels on se monte quand il n'y a pas de prise suffisamment pour les mains et pour les pieds. Bon, et puis progressivement, maintenant, on a trouvé que c'était encore mieux quand c'était sans moyens artificiels. Mais au début, c'était très bien. Donc, acrobate, si vous voulez, oui, mais quand on regarde les photos de Gaston Rébuffa, quand il gravit, par exemple, les pentes des cosmiques, quand on le voit sous un surplomb, qu'est-ce qu'on voit ? On voit effectivement quelqu'un qui fait l'escalade artificielle, mais la corde, elle est, à la différence des autres, où la corde, ça servait à s'assurer, c'était un tanouille, la corde, c'est un fil. Et un fil vertical. Et avec Gaston Rébuffa, la corde, c'est un élément du décor qui donne la verticale. Et donc l'acrobatie chez Rébuffa, il y a une dimension esthétique qu'il n'y a pas chez les autres.
Chroniqueur au Monde, il emmène en course Hubert Beuve-Méry.
Oui.
Ça peut être un hôtelier de Chamonix, ça peut être un dentiste avec qui il va faire une face nord extraordinaire. Il dit, le plus important, ce n'est pas la montagne qu'on gravit, c'est le partenaire qu'on a.
Oui, alors effectivement, il a jamais grimpé en solitaire, et ça ne lui correspondait pas du tout. Il a toujours considéré le métier de guide, c'était un métier un peu de médiateur, c'est-à-dire que c'est lui qui ouvrait les portes d'un jardin. C'est lui. En gros, il est chez lui dans cette montagne, et il ouvre les portes, il accueille chez lui quelqu'un à qui il fait découvrir ce qu'il aime et avec qui il le partage. Et donc, je crois que la dimension du partage, elle est essentielle dans la philosophie de Gaston Rébuffat. Et c'est très, très moderne parce qu'aujourd'hui, les jeunes qui grimpent se reconnaissent beaucoup plus dans cette vision des choses du partage je dirais, un peu intime dans une cordée, parce qu'on partage beaucoup de choses dans une cordée. Vous savez, quand on grimpe dans une face en glace, en neige et en glace, on est en cordée, mais on n'est pas assuré. Et donc, ça veut dire que s'il y en a des deux qui glissent, il emporte l'autre. Donc, ça veut dire qu'on partage forcément beaucoup de choses.
Parmi les amis, un virtuose, je ne sais pas s'il était virtuose de l'escalade artificielle, un virtuose en tout cas du violoncelle, Maurice Baquet, qui a participé au film Étoiles et tempêtes.
Lorsque le piton est enfoncé grâce au marteau dans cette fissure, il produit un son. Et ce son doit partir du grave jusqu'à l'aigu, par exemple. Dong, 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 ding. Le piton chante. Alors là, on sait que le piton tient. Par contre, s'il a l'air de s'enfoncer dans une motte de beurre ou dans de la terre, le piton ne tiendra pas. D'où, je pense, l'importance d'être musicien en haute montagne. La neige tombe à gros flocons sur la Suisse endormie, et les traîneaux glissent sans bruit sur la neige poudreuse. Blé, de bam, bam.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Avec Yves Balu qui publie un livre chez Hoébec sur Gaston Rébuffat qui a tant fait pour la popularisation de l'alpinisme avec ses films comme Étoiles et Tempêtes, avec ses amis comme Maurice Baquet. Mais si l'histoire de l'alpinisme est entrée dans l'histoire de France, c'est à cause de l'expédition à laquelle il a participé en 1950, expédition vers l'Himalaya, où il n'était pas le chef, il y avait des guides. Il y avait des amateurs confirmés et puis nommés par des instances nationales responsables.
Il y avait trois guides et trois amateurs, comme on dit, mais sans connotation péjorative, bien entendu. C'était les meilleurs alpinistes qu'il y avait de l'époque. Et donc, le chef d'expédition a été choisi parmi les trois amateurs. C'était Maurice Herzog, parce qu'il je pense qu'il avait des qualités d'organisateur. Il savait parler anglais, entre parenthèses, c'était pas idiot. Et puis, il avait un niveau d'études supérieur aux autres. Donc, on a pensé qu'il avait les capacités intellectuelles pour diriger une expédition.
On est au printemps 1950, Maurice Herzog a quatre drapeaux dans sa poche, le Népal, le club alpin français, Kléber Colomb, la société à laquelle il appartient, et le drapeau français qu'il plante au sommet de l'Annapurna, photographié par Louis Lachenal. La redescente ensuite est beaucoup plus difficile, et puis le retour à Orly. La suite du reportage qu'on avait entendu en exergue de cette émission, assurée par Georges Decaune.
J'écoute une annonce du haut-parleur et les premiers passagers commencent à descendre de cet avion qui vient d'Indochine et qui a fait un détour pour prendre au passage les membres de l'expédition française à l'Himalaya. Voici un des membres de l'expédition qui est tenu par un de ses camarades. Les deux pieds de ce garçon, c'est la Chenal, sont entourés de pansements. Voici Maurice Herzog porté par deux de ses camarades qui a la main droite complètement entourée de pansements et les deux pieds. Maurice Herzog est porté par les autres membres de l'expédition à l'Himalaya. Je vous signale qu'il n'y a pas seulement la Chenal et Herzog dans cet avion, je viens de reconnaître Rébuffat et également Marcel Ishak. On transporte en ce moment Herzog vers une ambulance. La Chenal a déjà été installée dans cette voiture ambulance. Et les blessures de Maurice Herzog sont certainement beaucoup plus graves qu'on ne le pensait. Il est absolument incapable de marcher. Il est soutenu sous les aisselles par Ishak et par Rébuffat sous les pieds.
Lachenal, qui était le seul avec Herzog à atteindre les 8000, va connaître 16 interventions chirurgicales. Maurice Herzog a l'hôpital américain de Neuilly une douzaine d'opérations, d'innombrables greffes. Il va perdre les orteils et les doigts. Il dicte pendant son hospitalisation ce fameux livre, Annapurna, premier 8000. Alors aujourd'hui, bien longtemps après, derrière le légendaire de l'expédition de 1950, d'autres récits s'imposent, dont celui retenu longtemps par Ray Buffa.
Oui, enfin, c'est une histoire d'homme. Alors, derrière la mythologie, il y a des hommes. Quand c'est une histoire vraie, c'est une histoire vraie. Donc, au début, on a eu effectivement, et ça correspondait à l'attente populaire de l'époque. Un récit qui était un récit extraordinaire, où il n'y avait que l'extraordinaire qui était retenu. Et derrière ce récit, derrière cette expédition, il y a des épreuves. Chacun a vécu ça de façon en a été marqué. Des épreuves physiques pour certains, morale pour d'autres. Et je pense que Gaston Ray Buffa, lui, n'a pas été marqué dans sa chair, mais il a été marqué dans son cœur et dans sa personnalité. Il s'en est, je dirais, jamais remis, vraiment. Et donc, il a dû garder pour lui un certain nombre de choses, parce qu'ils avaient tous signé, avant de partir, un contrat dans lequel ils s'interdisaient de publier quoi que ce soit sans l'aval des autorités qui les avaient envoyés là-bas, en disant, en gros, on vous offre cette expédition. Donc tout ce qu'on va en retirer, ça sera pour la Fédération de la Montagne, et donc vous abandonnez tous vos droits, y compris le droit d'écrire, de publier, de faire des photos. Et Gaston Ray Buffa, qui était le seul à l'époque qui avait déjà publié un bouquin, il a très mal vécu ça. Il a même failli ne pas signer, ne pas partir. Enfin, il est parti, mais il l'avait mal vécu. Lachenal, lui, a voulu, à un moment donné, écrire sa version des événements, parce qu'il n'a pas ressenti les choses comme Herzog, notamment au moment où ils se sont disputés, entre guillemets, pour savoir s'il fallait continuer ou redescendre.
Oui, Lachenal, il était tenté de descendre, parce qu'il disait « je ne vais pas devenir infirme ».
Et Lachenal, il était guide, c'était un professionnel qui savait que c'était dangereux et qui risquait, en tout cas, d'y perdre au moins leurs pieds. Et Herzog a dit « moi, je continue ». Et Herzog, dans son récit, laisse entendre que s'il a galvanisé... Lachenal.
Et Lachenal, que dit le récit de Lachenal et dit, quand le connaît-on?
Lachenal, lui, a écrit, a été voir un copain, il était voir Ray Buffa, en disant à Ray Buffa, écoute, tu travailles au Monde, est-ce qu'il prendrait ma version des événements? Ray Buffa a dit, je veux voir, dans la Beuve-Mairie, il est revenu voir Lachenal en disant, c'est bon, ils attendent ton récit. Et Lachenal dit, ah ben non. Non, je ne peux pas. Pourquoi? Parce que j'ai eu le temps d'en parler autour de moi et quelqu'un venu de Paris m'a dit, Lachenal, vous êtes professeur à l'ENSA, là? Il a dit, bah oui, avec mes pieds coupés, qu'est-ce que je peux faire de... Si vous restez professeur à l'ENSA, il vaut mieux vous taire. Alors, il a quand même été voir un copain alpiniste à qui il a dicté sa version des événements, dans laquelle il dit tout simplement, moi, j'étais guide. Il voulait continuer, je ne pouvais pas le laisser partir seul. Donc j'ai continué, non pas pour la France, j'ai continué, je me foutais, je ne veux pas laisser mes pieds pour la France. J'ai continué parce que je ne voulais pas le laisser seul. Et cette version que Ray Buffa avait, qui m'a donnée du reste, n'a été publiée que très tardivement, en 1996. Voilà. Et ça ne remet pas en cause fondamentalement, mais ça humanise un petit peu l'histoire de cette cordée.
Le grand sociologue Paul Lyonnais, qui vient de disparaître, a consacré un livre qui s'appelle « La montagne ». Et la mort, en partie à l'expédition de la Annapurna, il dit à partir de ce moment-là, l'Everest, l'Annapurna, ça devient le champ des morts.
Oui, des morts, je ne sais pas, mais en tout cas des martyrs. Parce qu'il n'y a pas eu de mort à l'Annapurna, il y a eu des martyrs. Et qui sont devenus des martyrs glorieux. Et c'est ça, du reste, contre lequel a lutté Ray Buffa. Je pense qu'il y avait aussi, quelque part, une frustration. Il aurait bien voulu aller au sommet. Il n'a pas été, donc il n'avait rien à raconter par rapport à ça.
Il avait découvert l'itinéraire, mais il n'a pas pu aller au sommet, puisqu'il fallait les ramener.
Absolument. Mais donc, il n'a pas pu faire le sommet. Et donc, il a été extrêmement frustré par rapport à ça. Et donc, il s'est démarqué par rapport à cette présentation un peu d'alpinisme colonial où on rapportait une belle victoire à la France, et lui a dit, moi, c'est pas ça. Pour moi, l'alpinisme, c'est pas ça du tout. C'est pas la lutte contre la montagne. C'est mon dernier ami. Et en ça, il s'est rapproché des sports de glisse aujourd'hui, c'est-à-dire où on s'appuie, on lutte pas contre l'élément. On s'appuie sur l'élément. On est en complicité avec les éléments naturels.
C'est-à-dire qu'il a aussi ramené de la raison face à l'exaltation. Une citation de Ray Buffa.
Le guide, il est responsable de quelqu'un. Là, Annapurna, je ne dis pas qu'on n'était pas responsables les uns des autres, c'est évident. Mais enfin, si on se changeait en tête de cordée, on faisait la trace à tour de rôle.
Il y a une grande modestie chez vous.
Mais non, mais je ne suis rien modeste, c'est pas vrai, je suis exact. Ça n'enlève rien à ce que j'ai pu faire, ou à l'Annapurna, ou...
Mais est-ce que, en fin de compte, vous n'avez pas souffert autant que les autres, autant qu'Herzog?
Oh non, moi j'ai eu les pieds un peu gelés, mais bien sûr pas gravement comme Maurice. J'ai eu, Lionel aussi, on a eu les yeux brûlés. Parce que le jour où on a ramené Maurice et Louis du dernier camp, ils étaient très handicapés. Pour nous, il n'était plus question d'aller au sommet, mais seulement de les ramener. Et moi, je dois dire, ça ne m'a rien privé de ne pas aller au sommet, parce que ça correspondait au fond à ce que j'aime bien dans mon métier, c'était de ramener en quelque sorte la cordée. Vous voyez, c'était ça le truc fondamental. L'urgence, c'était de les ramener, et ça me plaisait assez, si vous voulez.
Ça ne m'a rien fait de ne pas être au sommet. Il négocie avec la vérité. Là, il est en 70, face à Jacques Chancel. C'est seulement, bien après sa mort, en 96, quand le texte non censuré de la Chenal paraît, que vous intervenez aussi dans le débat, que les choses se corrigent.
Oui, si vous voulez, ce qu'on entend là, c'est une posture, une belle posture, en disant « je suis très fier, et à la limite, c'est presque aussi beau que d'avoir été au sommet, de les avoir ramenés ». C'est vrai, mais c'est une évidence qu'il aurait bien aimé aller au sommet, et qu'il en était très frustré. Mais ce qui l'a le plus gêné, c'est la présentation qui a été faite après de cette expédition dont il faisait partie et dans laquelle il ne se reconnaissait pas du tout. Alors c'est vrai, en plus qu'il ne s'est pas du tout intégré.
C'était un individualiste, disait Paul Lyonnais.
Il était individualiste, c'est vrai, personnel, disons, on peut dire en tout cas personnel, et donc il ne s'est pas lié avec les autres. Donc il n'a pas vécu cette exaltation collective, et il s'en est démarqué, et c'est du reste probablement ça qui l'a aidé à revenir à sa propre sensibilité, à dire finalement... L'alpinisme que j'aime, c'est pas celui-là. Il n'est jamais parti d'une expédition après. L'alpinisme que j'aime, c'est emmener un compagnon en montagne. Une montagne choisie, un compagnon choisi.
Dites-moi, vous ne prenez pas une posture, vous, Yves Balu, en disant Rébuffa, c'est le symbole de l'alpinisme non colonial. Attendez, Rébuffa, il a passé sa jeunesse dans une structure dépendante des chantiers de jeunesse pendant le début de la guerre. Jeunesse et montagne, assez hard. Hein. Il admirait beaucoup Cassin. Alpiniste fasciste, qui l'a souvent précédé dans des voies difficiles, mais qui portait ses victoires au pied de Mussolini. Alpinisme, ça rimait à son époque avec nationalisme.
Mais je vais même plus loin. Vous savez que le mouvement Jeunesse et Montagne, dans les règlements de Jeunesse et Montagne, pour y être admis, il ne fallait pas faire partie de la race juive.
On parle évidemment du Jeunesse et Montagne de l'automne 40,
oui, c'est ça.
À la fin de la guerre, pas du Jeunesse et Montagne
non,
d'aujourd'hui.
Non, bien sûr que non, de cette époque-là. Or, on constate quoi? On constate que la Chenal, Terray, Rébuffa, Honoré Bonnet, tous les autres, tous ceux-là, ont fait partie du Jeunesse et Montagne. Et que je sache, aucun de ceux-là que j'ai connu n'a adhéré à ces thèses. Donc je crois qu'il a été dans un mouvement de montagne parce que ça lui permettait de faire la montagne. Et puis il a lu peut-être rapidement certaines choses, mais je suis persuadé, en tout cas je peux en témoigner parce que j'ai suffisamment connu pour dire ça, que c'est pas du tout par idéologie qu'il est rentré dans ces mouvements-là, c'est peut-être par opportunisme, mais pas par idéologie.
La rémunération symbolique après Nana Purna de Herzog, ça a été le Haut Commissariat à la Jeunesse et au Sport, la mairie de Chamonix, il a été député, la politique. Il n'est pas sûr que Maurice Herzog puisse être enterré à Chamonix, le cimetière du Biolay, c'est très très réservé. Hein. Oui. Donc Lionel Terray y est, Louis Lachenal y est, Gaston Rébuffa y est. Il faut être reconnu comme étant à sa place pour avoir sa place à Chamonix.
C'est vrai que Herzog n'a pas laissé un très bon souvenir à Chamonix, puisque bon, c'est politique, hein, et je ne prends pas parti du tout. Donc la communauté chamoniarde, il n'est pas forcément persona grata actuellement. Mais ça, c'est des choses qui vont et qui viennent, hein, vous savez.
Puis il a laissé des tours dans la
ville de
Chamonix. C'était un bon skieur, Herzog ?
Non, pas un très bon skieur.
Lui non plus.
Herzog n'était ni un très bon skieur, ni un très bon alpiniste, mais c'était un très bon chef d'expédition.
Oui, mais enfin, ici, on a une équipe de skieurs commandée par Jacques Sigal, avec Franck Olivard et Frédéric Martin.
Quand te reverrai-je, pays merveilleux, où ceux qui s'aiment vivent à deux.
Votre livre, je ne vais pas citer le titre du film dont on vient d'entendre un extrait, vous ne connaissez pas ce film. Moi non plus, je ne le connaissais pas. Les bronzés font du ski. Vous voyez, Yves Balu, on a quand même beaucoup à apprendre. Le titre de votre livre, Gaston Rébuffa, La montagne pour amis, c'est aux éditions Ebec. Et le roman où vous parlez de Nana Purna, c'est ?
C'est La conjuration du dame chez Barrois.
Chez Glénat, qui est un éditeur de Grenoble. Près de Grenoble se trouve la collection d'Yves Balu. Tout à l'heure, chez Mathieu Vidard, les grosses têtes au carré. La semaine prochaine, dans la marche de l'histoire, avant la journée spéciale de France Inter à New York, un essai d'histoire du terrorisme. Lydvine Caron et Cédric Lalanne ont assuré la technique de cette émission.